RMC Intégral Foot, Coupe du Monde Féminine.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, il est 14h07. Si vous nous rejoignez sur RMC, je vous apporte la bonne nouvelle. La victoire de l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde féminine, 2-1 face au Brésil. Que ce fut tendu. Débrief de ce match et de ce premier succès pour les joueuses d'Hervé Renard à la Coupe du Monde avec Élise Bussaglia, notre consultante, deuxième internationale la plus capée, Flore Jaffrelot, journaliste, ancienne joueuse de D1, D2, et notre commentateur Anthony Reich. Vos messages évidemment, hashtag RMC Live et appli direct studio et le 32-16. Durant cette heure, on parlera aussi des événements à venir sur l'antenne ou qui ont eu lieu, notamment l'athlétisme avec Kevin Mayer qui est là pour le décathlon au Tour de France femme avec cette étape reine au Tour de Pau et l'ascension du Tourmalet pour les coureuses. Et on n'oublie pas également l'escrime avec les mondiaux du côté de Milan. Mais on nous appelle à Fukuoka au Japon. Vous l'avez vécu il y a 10 minutes. Maxime Grousset est devenu champion du monde du 100 mètres papillon. Julien Richard était aux commentaires. Et Julien, tu es en zone mixte avec justement Maxime Grousset, notre quatrième champion du monde sur ces mondiaux. Maxime Grousset dans un instant. Oui, il est en zone mixte. Juste après sa course, il y aura le podium que vous allez pouvoir vivre sur RMC dans un instant. Une nouvelle Marseillaise, on en a eu plein avec Léon Marchand, il y en a eu trois, mais aussi avec Maxime Grousset que l'on retrouve avec Julien Richard en zone mixte. Et on l'a pas. Bon, c'est pas grave, on le retrouvera tout à l'heure. Maxime Grousset. Et parlons de foot, puisqu'on est là pour ça, durant cet intégral foot. Anthony Reich, Élise Bussaglia et Flore Jaffrelot, vous êtes avec nous. On se remet de nos émotions. Tout d'abord, rapidement, Anthony, le rappel de la physionomie de cette partie pour les Bleus.
Eh bien, ce sont les Bleus qui ouvrent le score à la 18e grâce à Eugénie Le Sommer. 90e but pour l'attaquante lyonnaise. Derrière, il y a égalisation du Brésil juste avant l'heure de jeu par Debinha. Un but partout et c'est la capitaine, la tôlière de cette équipe de France guerrière qu'on annonçait forfait qui finalement donne le but de la victoire. Wendy Renard à la 83e de la tête. Et victoire donc 2-1 des Bleus face au Brésil. Les Bleus, les joueuses d'Hervé Renard qui prennent du coup là, par la même occasion, la tête de ce groupe F avec 4 points, 3 points pour le Brésil, 1 point pour la Jamaïque et 0 pour le Panama. La Jamaïque et le Panama qui s'affrontent dans une vingtaine de minutes.
Merci Anthony. Élise Bussaglia, Élise, on pousse un grand ouf, allez, un ouf de soulagement. Ouais, si un grand, on peut dire grand.
Oui, on peut dire grand quand même. Hein. On peut dire grand parce qu'après le premier match contre la Jamaïque, ça avait été quand même un petit peu inquiétant, surtout que voilà, derrière tu as comme deuxième match le Brésil, donc qui avait fait un gros match pour son entrée en lice. Alors bien sûr, faut relativiser, c'était que contre le Panama, mais quand même, elles avaient montré des très belles choses. Et là, voilà, on est soulagé par la prestation de l'équipe de France, notamment par ce qu'on a vu en première mi-temps, et puis soulagé forcément par le score et puis les trois points que qui font énormément de bien.
Il y a une première réaction, Eugénie Le Sommer au micro du diffuseur France 2.
Aujourd'hui c'est la victoire, c'est ce qu'on était venu chercher. On était un peu dos au mur avec le premier match où on a fait nul et on voulait gagner ce soir et c'est ce qu'on a fait. Et on avait raté notre entame de match contre la Jamaïque et on s'était dit qu'il fallait qu'on démarre fort et c'est ce qu'on a fait, on a poussé, on a réussi à marquer. Et en tout cas, je suis fière de l'équipe parce qu'on avait un plan de jeu, il a très bien fonctionné. C'est dommage mais voilà, on est revenu au score et c'était plus important.
Et voilà, important cette première victoire. On a rétabli la connexion avec Fukuoka. Maxime Grousset, champion du monde du 100 mètres papillon, est avec Julien Richard.
Maxime, c'est un coup d'essai, mais c'est un coup de maître.
Ah, je suis vraiment trop content. Ça y est, voilà enfin la médaille d'or tant attendue. Champion du monde. Première fois en individuel, donc... ça va être que du bonheur, j'ai hâte de passer sur ma Marseillaise.
Comment raconter ta course ?
Je me suis senti super bien. Voilà, je suis parti. Je savais que j'allais partir devant de toute façon. Mais bon, je fais une touche pas terrible encore au 50. Et bon, malgré ça, j'arrive à faire un gros retournement et une bonne deuxième coulée. Et derrière ça, je garde ma vitesse. Les 5 derniers mètres, c'était vraiment dur. Parce que je les sens, je les vois qu'on est juste à côté, qu'ils reviennent fort sur moi. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit, allez, pousse, glisse, je pensais qu'à ça. Et donc à la fin, le dernier mouvement, j'ai resté le plus tendu possible pour avoir le moins de résistance possible. Et au final, je vois le petit plot numéro 1, donc j'étais trop content.
Qu'est-ce que tu ressens exactement à ce moment-là? À quoi tu penses?
Bah, je pense à moi, hein. J'ai juste kiffé. Bah, je pense aussi à tous ceux qui m'ont accompagné pour en arriver jusque-là. Donc c'est mon premier individuel. Et j'espère, et en tout cas je ferai en sorte que ce ne sera pas le dernier.
C'est un gros pari que tu as pris de te lancer là sur ce sans papillon. Est-ce que tu as eu des doutes?
Non. Je me sens bien sur cette course, donc au final j'ai pris du plaisir. J'ai eu aucun doute. Je savais pas encore choisir entre le 50 et le 100, papillon et crawl. Mais au final, quand j'ai fait mon choix, je l'ai assumé pleinement. Et je savais ce qu'il fallait faire.
À l'arrivée, c'est un très gros temps.
Ouais. Ouais, c'est un très gros temps. Et encore, je ne fais pas une course parfaite. Donc, voilà. Il y a des choses encore à améliorer. Il y a des choses à mettre en place pour vraiment écraser la concurrence.
Ça touche. À un an des Jeux de Paris, ça donne une petite idée aussi.
Ça donne une petite idée, ouais. Je vais peut-être le rajouter dans mon planning d'entraînement. Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup préparé cette course, vraiment même pas du tout. Mais voilà, je le sens bien, c'est assez naturel et c'est cool.
Tu te sens libéré justement d'avoir cette médaille d'or?
Ouais, j'ai l'impression que c'est une libération, c'est un truc. J'ai toujours rêvé. Et là, je l'ai enfin, donc maintenant, je vais profiter de mon moment.
Maxime Grousset au micro de Julien Richard, champion du monde du 100 mètres papillon, et le podium aura lieu dans 10 minutes. On ne boudera pas notre plaisir d'écouter une petite Marseillaise depuis Fukuoka, lieu de ces championnats du monde de natation. Retour au football et ce premier succès de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. 2-1 contre le Brésil. On est avec Élise Bussaglia, notre consultante, Fleur Jaffrelot, journaliste, ancienne joueuse de D1 D2, Anthony Reich au commentaire. On le disait dans ton résumé, Anthony, ce but qui nous a délivré de Wendy Renard et avec Selma Bacha, Fleur, c'est 100% Olympique Lyonnais là, hein.
Exactement, c'est peut-être même travaillé, j'ai envie de vous dire. On le voit sur cette action, on voit Selma qui tire tendu, coup de pied comme elle a l'habitude de le faire, et puis on voit Wendy qui va pas toujours au deuxième poteau et là se fait complètement oublier, seule. Et puis après, on connaît ses qualités du jeu de tête, et puis c'est facile pour elle, et puis elle nous délivre, parce qu'il faut le dire, hein, on était un petit peu tendu. Ce but à la 83e minute, il fait du bien, première place du groupe. Va falloir aller confirmer face au Panama et aller chercher cette première place.
Avec des images fortes à l'issue du coup de sifflet final, où on a tremblé jusqu'au bout avec ce coup franc des Brésiliennes. Anthony, Hervé Renard qui est allé saluer toutes ses joueuses, et il y a des poignées de main et des regards qui en disent beaucoup.
Ouais, elles ont célébré tout ensemble cette victoire après le coup de sifflet final, et une vraie accolade entre Hervé Renard et Wendy Renard. Hervé Renard qui vient lui faire lui baiser le front, et une vraie accolade ensuite, il entoure par ses bras Wendy Renard. Ça montre toute la relation qui est en train de se créer entre ce staff et ces joueuses de l'équipe de France, qui avaient peut-être besoin aussi de plus de considération humaine et d'élan au niveau de la cohésion. Et peut-être que là, aujourd'hui, on le disait ce matin, je le disais dans les grandes gueules du sport, ce match, c'était soit le déclencheur, soit c'était le retour à la maison. Peut-être que c'est le déclencheur de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde aujourd'hui qu'on a vu.
On écoute Hervé Renard au micro de France Télévisions juste après la rencontre.
Et on a souffert pendant 10 minutes quand on a encaissé le but. Et on a eu le courage de réagir. Et on marque un deuxième but de la tête, et on a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'abnégation. Et dans une compétition, et des fois il y a des matchs référence, celui-là ça doit l'être, parce qu'on a battu une très belle équipe du Brésil.
Et le prochain match sera midi mercredi, à suivre sur RMC tous les matchs des Bleus France-Panama, donc à partir de midi. On vient d'entendre Hervé Renard, Élise Bussaglia. J'espère qu'il va retrouver sa voix d'ici mercredi, parce que là il était complètement presque cuit vocalement, Hervé Renard, hein.
Oui, bon, on l'a vu à la fin de match, hein. Il était vraiment derrière ses joueuses. Après il a tout donné aussi, comme les joueuses. Il fallait mettre beaucoup d'intensité dans ce match, elles l'ont fait, et lui aussi sur le bord du terrain. Il les a vraiment poussés jusqu'au bout. Et c'est important aussi. Hein. C'est toute une équipe. C'est bien sûr les 11 sur le terrain, mais c'est toutes les joueuses qui font partie du groupe. Et puis c'est tout un staff aussi. Donc voilà, là on voit une bonne osmose. Et puis c'est récompensé aujourd'hui par une belle victoire avec la manière, notamment en première mi-temps. Donc c'est bien. Ça va les lancer dans cette compétition.
2-1, la victoire de la France face au Brésil. C'était tout à l'heure sur RMC avec les commentaires d'Anthony Reich. Petite pause, direction le Japon, puisqu'on vous l'a promis, on veut entendre cette Marseillaise. La première action de Maxime Grousset, vous l'avez entendu. Désormais, il va les récupérer, non pas sa médaille de bronze, il en a déjà deux, Julien Richard, mais bien sa médaille d'or.
Maxime Grousset, comme le dit le speaker ici à Fukuoka. Maxime Grousset qui monte à l'instant sur la première marche du podium. Ah, il l'attendait, il l'a cherché, cette première médaille d'or effectivement internationale, enfin en tout cas dans une compétition de niveau mondial. Maxime Grousset qui tournait autour, c'est vrai, hein, déçu du 50 mètres papillon parce qu'il décroche sa médaille de bronze, mais il avait peut-être mieux sur cette course là en début de championnat du monde. Le bronze sur le 100 mètres nage, ça venait un peu de loin. Et là, cette distance qu'il découvre au niveau international, la première fois qu'il le nageait dans une grande compétition, coup d'essai, coup de maître, donc pour Maxime Grousset, champion du monde, et dans un chrono vraiment canon, 50 secondes, 14 centièmes. Alors évidemment, il explose son record de France, mais pour vous donner un ordre d'idée, il devient avec ce chrono-là le cinquième performeur de l'histoire sur la distance. Alors oui, les deux ogres n'étaient pas là, Caleb Dressel, qui n'est pas qualifié, l'Américain, et le Hongrois qui n'était pas là également, et Maxime Grousset va pouvoir enfin entendre sa Marseillaise à lui en individuel, la première. La joie de Maxime Grousset sous les yeux de ses parents venus de Nouvelle-Calédonie qui sont dans les tribunes, et sous les yeux également de la pépite, le nouveau phénomène français Léon Marchand, qui était présent dans les tribunes et qui s'est époumonné sur la Marseillaise, tout comme l'ensemble de l'équipe de France et de Maxime Grousset qui pose pour la photo avec sa médaille d'or, champion du monde du 100 mètres papillon, Maxime Grousset.
Merci Julien, et c'est pas fini, on rappelle, il y a un barrage tout à l'heure pour Marie Wattel, oui, pour sa qualification en finale du 50 mètres nage libre, mais déjà des mondiaux de natation réussis, évidemment en grande partie grâce à Léon Marchand et Maxime Grousset, nos pourvoyeurs de médailles. À tout à l'heure, Julien, depuis Fukuoka. On continue de débriefer ce France-Brésil. C'est la Coupe du Monde de football en Australie et en Nouvelle-Zélande, et la première victoire des Bleus, 2-1 face au Brésil après le match nul 0-0 lors de la première journée de cette phase de poule face à la Jamaïque. Mary a composé le 32-16. Bonjour Mary.
Bonjour. Bonjour à tous.
D'où tu nous appelles, Mary?
De Hyères, boulevard.
Ah, magnifique ville de Hyères, évidemment. Porquerolles juste en face, ça sent les vacances, évidemment. Mary, tu as vu ce match France-Brésil. Qu'as-tu pensé de la prestation des joueuses d'Hervé Renard?
Eh ben déjà, comme il y en a un chez vous qui dit, ben, quand il pleut, il pleut, et quand il fait beau, il fait beau. Ben, déjà, aujourd'hui, il fait beau. Hein. Après, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que l'équipe de France a été capable déjà d'ouvrir le score. En fin de deuxième période aussi, on voyait les Brésiliennes qui sortaient un jeu, on va dire, assez physique, et je trouve qu'elles ont été capables de répondre et il n'y a pas eu de faute grossière. Bon, c'est sûr que le retour, le début de deuxième mi-temps avec ce but, c'est un peu dommage. Après, ça tient bien, et puis à la fin, c'est sûr qu'à la 87e, avec la capitaine, surtout qu'on se posait des questions un peu sur son état physique, etc. Le fait qu'en fin de match, elle soit capable de faire ça, plus la la complicité avec son partenaire de club et le résultat final, c'est sûr que c'est top. Il y a aussi, on entendait souvent, depuis que M. Renard il avait pris en main la sélection, le fait qu'elles avaient envie pour lui de se donner pour elle, etc. Et le fait que ça arrive enfin à se concrétiser, qu'on voit, on va dire, avec l'occasion à la 87e, un match plein, bah, je trouve que c'est bien, c'est cool. Puis c'était un beau France-Brésil, que ce soit chez les garçons, chez les filles, elles ont été là, donc... Pour moi, super.
Surtout quand c'est un France-Brésil gagné, évidemment. Élise, on parle. Élise, on parle de cet impact physique que Mary soulignait. Alors, effectivement, le Brésil, c'est différent de la Jamaïque, mais les Brésiliennes, elles nous sont quand même rentrées dedans et on n'a pas baissé la tête.
Oui, c'est vrai qu'on avait souffert dans le premier match sur cette intensité physique mise par les Jamaïcaines. Mais pour moi, on était tellement en déficit technique dans le premier match qu'on avait du mal à éviter ces duels. Et donc, on souffrait dans cet impact. Là, on a mis beaucoup plus de qualité technique, ce qui nous a permis d'éviter un peu de duels. Et en tout cas, quand il y en avait des duels, bah, on a quand même vu pas mal de fautes brésiliennes. Et les fautes ont été amenées par, bien sûr, l'intensité que les Brésiliennes ont mis, mais parce qu'aussi les joueuses françaises ont mis cette qualité technique qui leur a permis d'obtenir des fautes. Et après, dans l'intensité, oui, la France a su répondre. Alors après, l'intensité brésilienne était souvent à la limite du règlement. Mais voilà, elles ont réussi à répondre à cet impact et à mettre beaucoup plus aussi de vitesse dans les enchaînements techniques, de vitesse aussi dans les courses, de vivacité, d'intensité. Et c'est vrai que la première mi-temps de l'équipe de France était d'une grande qualité. Donc Hervé Renard parlait de match référence. Je pense qu'il va falloir effectivement se baser sur ce match-là pour poursuivre la compétition.
On a beaucoup parlé de notre milieu de terrain. On a évolué en 4-4-2 avec deux joueuses à la récupération, Anthony. Et tu as pu voir un petit graphique qui soulignait l'abattage au milieu de Gueyoro, notamment de Grace Gueyoro et de Tonetti.
Ouais, effectivement, on en a parlé pendant la rencontre tout à l'heure. C'est vrai que parfois, notamment en fin de rencontre, il y avait quelques espaces, mais quand on voit là les graphiques qui viennent de sortir avec les statistiques de la rencontre, on voit que autant Grace Gueyoro que Sandy Toletti, elles ont un rayonnement quasi total sur trois quarts de la surface du terrain. Donc ça prouve un qu'elles ont le volume de jeu, un volume de jeu important, une densité, qu'elles se déplacent partout, qu'elles savent aussi apporter un soutien offensif. Alors oui, parfois en fin de rencontre, quand il y a un peu moins de jus, il y a des espaces qui se créent, mais c'est aussi le jeu d'un milieu comme ça, je pense, Élise, avec à 4 où il n'y a pas vraiment de 6 naturel.
Oui, c'est aussi le fait d'être en 4-4-2, évidemment. Donc elles ont fait un gros match. Le seul bémol que j'apporte là-dessus, c'est pas sur ce match, c'est sur l'ensemble de la compétition. Il va falloir qu'elles tiennent. Ouais. Et c'est là où ça va être difficile parce qu'on n'a pas justement une énorme profondeur de banc. On a des joueuses qui peuvent rentrer, qui peuvent faire le boulot sur quelques minutes, mais pas forcément pour démarrer le match. Donc il va falloir que Sandy et Grace soient choyées et qu'elles récupèrent bien entre les matchs parce qu'elles sont capables de faire des très bons matchs, mais une Coupe du Monde, une compétition, c'est des matchs qui vont se rapprocher au fur et à mesure et la fatigue va s'accumuler.
Et donc, le niveau va s'élever.
Et le niveau va s'élever. Donc il va falloir bien récupérer, mais elles en sont capables. Donc voilà, espérons qu'elles puissent. J'anticipe un peu, mais si on peut vite mener au score contre le Panama, mettre des buts et les faire souffler, ça serait une bonne chose.
Puis de voir la composition que nous proposera Hervé Renard, parce que dans cette logique, peut-être faire tourner quelques joueuses sous la menace et un peu plus aujourd'hui des cartons jaunes. Donc si deuxième carton jaune, c'est suspension pour un éventuel huitième de finale.
Toletti, Dali.
Voilà, notamment.
Qui sont les joueuses indispensables, a priori. Donc, c'est vrai que l'enjeu du troisième match est effectivement, comme tu le disais, Élise, si on mène vite au score, une Kenza Dali qui est quand même sortie en se tenant la cuisse.
Alors, Fleur, une petite hypothèse.
C'est inquiétant.
Elle se tenait bien l'arrière de la cuisse. Je l'ai vu sourire, donc je me suis dit, bon, ça va peut-être pas tirer. On sent souvent les crampes venir comme ça. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu plus positif que très négatif. Je préfère voir les choses comme ça.
On va voir ça, on espère que ça ira pour Kenza Dali. On a vu que ça allait pour Wendy Renard et le Mollet. Et puis même pour Selma Bacha qui a fait son premier match avec les Bleus. Cette victoire 2-1. Merci beaucoup Élise Musaglia, Fleur Jaffrelot, le dispositif, Anthony Reich, vous le connaissez. On sera ensemble mercredi midi contre le Panama.
Avec plaisir.
Fidèle, on sera là. Merci Élise.
Merci à vous.
Merci Fleur et Anthony. Un petit détour par l'escrime et Milan puisque Maria Zé nous appelle. Et en plus... Maria, tu nous appelles avec des bonnes nouvelles. Ce sont les championnats du monde d'escrime.
Oui, j'ai l'impression que ça marche bien pour les équipes de France dans toutes les disciplines. En escrime aussi, les deux équipes de France seront en finale ce soir. 45-28 pour Romain Canon et les épéistes face à la Corée. Ils viennent de remporter leur demi-finale. Et on aura deux finales France-Italie ce soir. C'est les meilleures nations finalement dans la discipline. Pour les filles, ce sera à 17h. Pour les fleurettistes et pour les garçons, 18h.
Merci Maria Zé depuis Milan et on va suivre avec plaisir. C'est final pour les équipes de France d'escrime. On revient dans un instant, 14h28 dans l'intégrale foot. On va parler athlétisme. Pourquoi il y a les championnats de France en ce moment même à Albi? On sera avec Aurélien Tiercin, notre envoyé spécial. Et puis, il y a beaucoup de vélos. D'abord, le Tour de France femme avec cette étape décisive aujourd'hui autour de Pau et l'ascension du Tourmalet pour les coureuses. Aussi, la Classica San Sebastian pour les hommes une semaine après le Tour de France et la victoire de Jonas Vingegaard. On revient dans un instant pour l'Intégral Foot sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Arnaud Valadon.
14h32 sur RMC. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner en ce samedi après-midi. Je vous rappelle les informations importantes. La France a battu le Brésil 2-1. C'était le deuxième match de la Coupe du Monde de foot en Australie et Nouvelle-Zélande. Eugénie Le Sommer et Wendy Renard à 7 minutes de la fin pour délivrer les Bleus qui prennent la tête de leur groupe F. Prochain match mercredi midi France-Panama. À suivre évidemment sur RMC, la radio qui diffuse tous les matchs des Bleus en direct. Et en intégralité, l'autre information importante de l'après-midi, vous l'avez vécu, c'est la médaille d'or aux mondiaux de natation 100 mètres papillon pour Maxime Grousset, le français. On a vécu la Marseillaise en direct, le podium à Fukuoka aux mondiaux, une nouvelle médaille, la quatrième en or pour ce bilan incroyable des nageurs et nageuses français. Trois médailles d'or pour Léon Marchand et là pour Maxime Grousset qui avait déjà deux médailles de bronze. Direction le vélo, puisqu'il y a une course importante, une classique. La Classica San Sebastian. Pierre Amiche suit cette course avec nous. Salut Pierre.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
Le vélo de retour dans le Pays Basque, hein, puisqu'on a vu que le Tour de France était parti de Bilbao, est allé aussi à San Sebastian. Et il y a un grand absent qui est le grand favori en quelque sorte de cette classique San Sebastian, c'est le Belge Remco Evenepoel.
Remco Evenepoel qui a chuté dans le fictif, qui est reparti et qui s'est fait mal au poignet. Binyam Girmay lui aussi a été touché au moment de la chute. Pour l'instant, la photographie de cette étape elle est très simple. Il reste 93 km à parcourir. Nous sommes dans une montée que tu connais bien, Arnaud, puisque tu l'as vécu sur le Tour de France, le Gesquibel. Les quatre hommes en tête qui viennent de basculer tout juste au sommet de cette difficulté de deuxième catégorie, eh bien ils sont quatre, dont deux Français. Les quatre coureurs sont Mikel Iturria, Nathan Van Doy, donc l'un des vainqueurs du Tour de France, coéquipier de Jonas Vingegaard, et deux Français, donc Julien Bernard de la Lidl Trek et Romain Bardet, le revenant, lui qui avait abandonné sur la 14e étape du Tour de France suite à une commotion, la deuxième fois déjà dans sa carrière qu'il avait dû abandonner le Tour de France dans ces conditions-là. Les quatre hommes qui comptent 2 minutes 25 d'avance sur le peloton et il reste 92 km 900 à parcourir. On a parcouru un peu plus de la moitié et puis surtout ils sont sur la selle depuis maintenant quasiment 3h30.
Et on se souvient du Gesquibel parce que San Sebastian, c'est la victoire de Victor Lafay.
Tout à fait, le prodige français de la Cofidis qui d'ailleurs est annoncé sur le départ, le seul vainqueur français sur le Tour de France qui pourrait rejoindre les rangs d'une équipe étrangère. Ce murmure qu'il aurait peut-être signé un contrat du côté d'Ineos, parce que tu le sais Arnaud, on ne peut pas officialiser les transferts en vélo avant le 1er août, c'est interdit. Donc on parle de rumeurs, de petits bruits de couloir et il se pourrait que Victor Lafay poursuive sa carrière et son aventure personnelle du côté d'Ineos dans la formation britannique. 92 km 400 encore à parcourir et puis le tenant du titre Remco Evenepoel qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le départ, je te l'ai dit, hein, il a chuté dans le fictif un peu tout seul et il va falloir le surveiller parce qu'il y a des chances que malheureusement il soit touché. On espère évidemment que ça ne remette pas en question le duel annoncé avec Jonas Vingegaard sur les routes de la Vuelta. C'est le grand duel de cette fin de saison avec celui qui va opposer deux femmes aujourd'hui peut-être avec Demi Vollering et Annick Van Vleuten qui vont se défier sur les pentes du Tourmalet aujourd'hui.
Et on sera avec Léna Marjac dans un instant pour cette 7e étape du Tour de France Femmes. Merci Pierre pour la transition et à tout à l'heure pour la suite de la classique San Sebastian. Direction Albi, le Tarn, lieu des championnats de France d'athlétisme. Notre envoyé spécial Aurélien Tiercin est avec nous. Salut Aurélien.
Salut Arnaud, salut à tous.
Avec une journée chargée, une journée qui a déjà commenté, on a eu le premier bilan de Kevin Mayer sur le décathlon et le disque, le décathlonien qui était toujours en lice avec des épreuves à la mi-journée.
Ouais, Kevin Mayer moyen. Hier sur le poids, pour rappel, il avait réussi 15m26 alors que son meilleur jet de la saison, c'est 15m31. Il est à des années-lumière de ses 17m08 de 2019. Ça, c'est son record en carrière au poids. Aujourd'hui, il s'aligne sur le disque et la perche. Alors en ce moment, c'est le saut à la perche, mais Kevin Mayer va attaquer une première barre à 5m. Il n'a pas encore débuté le concours puisque les autres décathloniens ont démarré à 3m90. Donc l'après-midi, c'est tir un petit peu pour lui, et ce matin au disque il a manqué ses deux premiers jets, un premier qui est parti très très loin malheureusement hors secteur, le deuxième était complètement raté, il a terminé dans la cage et il s'est rattrapé avec un 46m92 au troisième essai. C'est comme au poids très moyen pour Kevin Mayer, alors c'est dans ses standards hein, c'est pas catastrophique non plus, mais son meilleur jet de la saison c'était 47m39, donc là quasiment 1m de moins. C'est une préparation un peu mitigée, les championnats du monde de Budapest c'est dans un moi. On espère qu'à la perche, qui est une des spécialités de Kevin Mayer, il y a beaucoup de points à attraper à la perche et surtout des sensations à retrouver. Donc pour Kevin Mayer, qui va attaquer là sa première barre à 5 mètres dans quelques minutes, voire 10 minutes maximum. C'est pas rassurant à un mois des championnats du monde, mais il y a encore un petit peu de temps.
Et lui se dit pas à 100%.
Il s'est blessé aux ischios jambiers, une déchirure aux ischios il y a 7 semaines au meeting de Charletti. Il avait déjà pratiqué la longueur, le disque et le poids. Ça s'était pas passé merveilleusement bien. C'était pareil, c'était dans ses standards moyens. J'ai même pas envie de dire moyen plus. C'était vraiment le minimum pour un athlète de l'envergure de Kevin Mayer. Donc voilà, on espère qu'il s'est bien retapé. Il nous a dit qu'après 7 semaines de cicatrisation, son ischio était revenu à fond. Mais bon, après on connaît hein, Kevin Mayer, il est toujours un petit peu sensible avec son corps et ses performances, et puis il arrive à se donner à fond quand la grande compétition arrive, donc on va pas paniquer évidemment, mais c'est la seule certitude de médaille pour l'équipe de France, encore faut-il que le corps tienne bon.
Tout à l'heure, il y a un programme très alléchant à Albi pour ces championnats de France d'athlétisme. Peut-être la course qui va devenir notre course française, tant il y a deux niveaux, je parle du 110 mètres haies, Aurélien.
Mais c'est la France, alors c'est une nation de haies évidemment, donc les séries à partir de 18h35 et la finale à 20h15. Le 110 mètres haies, c'est la discipline la plus attendue des championnats de France parce qu'il y a 9 athlètes sous les 13 secondes 50. C'est une barre symbolique où le haut niveau commence réellement. Il y a même 3 athlètes qui ont déjà réussi les minima pour les Mondiaux de Budapest et pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. C'est Willem Belossian 13 secondes 07, juste quoi Oumaté 13 secondes 09 et Sacha Zoya 13 secondes 22. On peut aussi dire que Pascal Martino Lagarde, qui est normalement le taulier du 110 mètres haies, lui il est en train de vivre un été un petit peu compliqué. Il a réussi 13.45 au mieux cet été, mais pourquoi ne pas accélérer au meilleur des moments. Il a 12 médailles internationales, on s'inquiète pas trop non plus pour PML comme on l'appelle, s'il veut accélérer et faut terminer dans les 3 premiers en plus pour avoir accès au championnat du monde de Budapest. On peut écouter Romain Barras, hein, le directeur de la haute performance de la Fédération Française d'Athlétisme, qui est vraiment bouche bée devant la densité française cette saison sur le 110 mètres haies.
Là aujourd'hui on a pratiquement 8 athlètes à moins de 13.50. C'est un niveau de fou, hein, au niveau de la densité des françaises. Ça perpétue cette tradition, on peut que s'en réjouir. Forcément par contre ça fera des déçus à la fin du week-end. Et effectivement ces championnats de France sont des triomphes américaines. Et donc on a plusieurs athlètes qui seront sélectionnables à l'issue du week-end et avant le comité de sélection. Et le comité de sélection devra faire un choix fort pour sélectionner ces athlètes.
Ah, il va y avoir du casse-tête pour ce 110 mètres haies parce que il y a beaucoup de noms et forcément les quotas sont limités. Tu le disais, les places sont très 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 chères.
Ben c'est ça, hein, parce que là en plus j'ai cité Pascal Martino Lagarde qui est vraiment sur la sellette pour l'instant, quatrième sur la ligne de départ des chronos. Zoya, Kouaoumaté, Belossian, ça semble être le trio qui se détache un petit peu, mais on peut aussi citer Aurel Manga qui a quand même déjà remporté une médaille de bronze mondiale sur 60 mètres haies il y a quelques années, qui est toujours placé, qui a été finaliste olympique à Tokyo. Dimitri Bascou, finaliste médaillé olympique à Rio en 2016. Donc il y a vraiment des gros noms, des hurdleurs importants de la scène française qui vont sauter, qui ne seront pas sélectionnés pour les championnats du monde de Budapest. Donc voilà, c'est vraiment la discipline à l'américaine, comme disait Romain Barras, pour les trials US, où c'est vraiment là, il y a une telle densité aux États-Unis, il y a évidemment rien de comparable avec la France, mais voilà, là-bas ce sont les trois premiers des trials, donc des championnats nationaux, qui sont qualifiés pour les grands championnats. Et bien pour le 110 mètres haies, c'est vraiment le cas. En France, il y a quelques disciplines, on peut citer, je sais pas, Mélina Robert-Michon au disque féminin, bah on sait qu'elle va gagner, hein. Elle a gagné son 38e titre de championne de France hier, donc il y a pas de concurrence. Oui, non, mais c'est délirant. Alors hiver et été confondus, oui, hein. C'est pas toutes les disciplines qui ont deux championnats, sinon elle aurait 65 ans.
Oui, c'est
mais
ça.
Là à la 22 titres, à la 22 titres estivaux à 44 ans, ça reste délirant. Mais voilà, sur le 110 mètres haies, il y a vraiment une énorme incertitude, et moi je mettrais bien ma petite pièce sur Juste Kouamaté, qui bat ses records perso de course en course cet été. Il avait d'abord réussi 13-25 en début, en fin de printemps, et puis 13-09 au meeting de Charletti. Ça pourrait descendre encore un petit peu parce que vraiment cette concurrence, elle est énorme. Et puis il y a Sacha Zoya qu'on n'oublie pas, un champion d'Europe des moins de 23 ans en début d'été, il y a quelques semaines en Finlande, 13 secondes 22. Il avait d'ailleurs battu le record des championnats d'Europe anciennement détenu par son entraîneur Ladji Doucouré, légende s'il en est de l'athlé français. Donc voilà, ça promet une course énorme. D'abord les séries à partir de 18h35 qui vont tous se mettre en jambes, et puis la grande finale attendue à 20h15.
Et qu'on suivra sur RMC. Il y aura aussi la finale du 400 mètres haies et 800 mètres hommes, notamment pour ce jour des championnats de France d'athlétisme à Albi. Merci Aurélien, et à tout à l'heure.
À bientôt.
On te retrouve sur l'antenne de RMC. 14h42, c'est la dernière ligne droite de l'intégrale foot. Vous retrouverez l'intégrale sport et Flora Moussi dans quelques instants, mais on va parler natation parce qu'on a eu tellement d'émotions, à commencer par cette médaille d'or sur 100 mètres papillon de Maxime Grousset, champion du monde. Julien Richard, notre envoyé spécial à Fukuoka au Japon, sort avec nous pour nous décrire les émotions, nous raconter ce que vit en cette semaine la natation française, un moment inoubliable, les hommes forts, Léon Marchand et Maxime Grousset. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Arnaud Valadon.
14h46 sur RMC. Je vous rappelle la victoire de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde de foot en Australie et en Nouvelle-Zélande. Victoire 2-1 sur les Brésiliennes. C'est le premier succès des joueuses d'Hervé Renard grâce à un but d'Eugénie Le Sommer en première mi-temps. Et surtout, alors qu'il y avait un partout, les Brésiliennes étaient revenues. Wendy Renard, d'une tête au deuxième poteau, est venue délivrer les Bleus et marquer donc cette première victoire de l'équipe de France. Prochain match mercredi midi contre le Panama. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur RMC. C'est l'autre nouvelle, et direction dans un instant le Japon Fukuoka. Maxime Grousset en or, champion du monde du 100 mètres papillon, sera avec Julien Richard dans un instant. Mais il y a beaucoup de directs que vous allez suivre tout au long de cet après-midi sur RMC. On parlait de la classique San Sebastian en cyclisme, et surtout le Tour de France femmes avec l'étape Rennes, la 7e, l'ascension du Tourmalet, l'étape reine pour sacrer peut-être une reine aujourd'hui. Léna Marjac est en direct des Pyrénées pour suivre cette 7e étape. Salut Léna.
Salut Arnaud, salut à tous.
On attend évidemment la grande explication de texte et peut-être un maillot jaune qui sera presque définitif pour demain, parce que tant cette étape aujourd'hui autour de Pau avec l'ascension du Tourmalet, Pau ce sera demain, l'Annemezan Tourmalet aujourd'hui, une boucle autour de Pau ce sera demain et le contre-la-montre individuel, mais aujourd'hui ça va vraiment monter très fort. Elles vont faire la même montée que les hommes, c'est-à-dire le col d'Aspin et ensuite le Tourmalet.
Oui, tu l'as dit, 90 km donc entre l'Annemezan et le Tourmalet. Cette première ascension, d'abord le col d'Aspin, un col de catégorie 1, et puis le fameux col du Tourmalet, un col redouté et aussi impressionnant pour les coureuses. 17,1 km d'ascension, une arrivée à 2115 mètres d'altitude, et surtout cette pente à 7,5%. Les organismes risquent de souffrir, et il risque aussi d'y avoir de nombreux écarts avec de gros délais entre les coureuses de tête et le reste du peloton. Un départ donné à 16h25 et les premières coureuses sont attendues ici au Tourmalet à partir de 19h, et on devrait donc voir ce gros combat entre les favorites, et notamment entre les deux Hollandaises Annemiek van Vleuten et Demi Vollering, qui vont essayer d'aller chercher donc le maillot jaune ce soir. Mais attention, on n'oublie pas quand même notre Française Juliette Labousse. Elle est 10e au général aujourd'hui et elle peut peut-être venir jouer les troubles faites. Mais en tout cas, pour vous faire un petit point de situation là au Tourmalet, les coureuses vont pouvoir surtout compter sur le soutien du public, parce qu'il y a du monde là sur les bords de route. Il y a déjà beaucoup de caravanes qui sont là et quelques amateurs d'ailleurs qui commence à grimper le col du Tourmalet avant que les coureuses, les professionnels arrivent.
Merci Léda, et c'est vrai que c'est très serré puisque si on prend Juliette Labousse, 10e, elle est à 1 minute 52 seulement de Lotte Kopecky, et évidemment il y a Van Vleuten qui est intercalé, Demi Vollering, bref on va se régaler, tu seras là pour nous faire vivre eh bien cette étape, cette 7e étape entre Lannemezan et le Tourmalet, bannière de Bigorre, donc dans ces Pyrénées. Ça va être absolument sensationnel, ce Tour de France femme qui pourrait donc se jouer aujourd'hui avant le contre-la-montre. Merci Léna. Direction Fukuoka, le Japon. On a vibré, on a eu plein d'émotions. Julien Richard, en tout cas, a vécu des mondiaux mémorables et Dieu sait qu'il en a vécu, Julien, notre envoyé spécial au Japon.
Alors là, je suis pas le seul à vivre des moments mémorables dans un championnat du monde. J'ai à côté de moi un entraîneur qui a dû vivre un moment non mémorable, Michel Chrétien, entraîneur du nouveau champion du monde du 100 mètres papillon. Ça claque,
ouais,
Michel,
ouais. Ouais, super. C'était vraiment un moment magique. Non seulement pas après, mais pendant toute la course. Parce que Maxime, quand je l'ai vu, la façon dont il a abordé cette épreuve, déjà avant, au niveau de l'échauffement, tout ce qui s'est passé avant, on sentait qu'il vraiment était très fort, et dès le départ, je me suis dit, oh, ça va le faire. Donc là, 50 secondes déjà de bonheur, et puis on sentait que vraiment cette épreuve, elle était pour lui ce soir.
Il la voulait, cette première médaille d'or. Il en a eu des médailles mondiales, et il courait après celle-là. Enfin, on sentait que c'était un moteur.
Ouais, je pense que quelquefois, il devait se dire, mais il faut absolument que j'en gagne une. C'était pas obsessionnel, parce qu'il savait qu'il était en plein progrès. Quand ça allait arriver, on savait pas trop. Bon, c'est le bon moment. Et je crois que c'est pas une obsession, parce qu'il aime la course, il aime le jeu. Bon, maintenant ça vient concrétiser toute l'ambition qu'il a quand même.
Ce qui est fou, c'est qu'il y a 6 semaines, il en avait jamais quasiment fait des 100 mètres papillon. C'est-à-dire que ça s'est fait au championnat de France, et il y a eu même ce choix qui a été payant finalement. C'est un coup d'essai, un coup de maître, et il y a eu ce choix de garder le 100 pape à la place du 50 mètres nage.
Oui, bon, le choix a été difficile parce que Maxime était médaillé l'année dernière sur le 50 mètres nage libre. Donc le 100 pape, c'était vraiment une aventure. Hein. On a fait cette épreuve au championnat de France parce que c'était le dernier jour, et quand on a regardé le programme, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et lui m'avait dit, écoute, je vais me mettre au 100 pas parce que j'aimerais bien battre le record de France. Donc c'était uniquement son ambition. Et en battant le record de France, il se qualifiait pour les mondes. Donc on s'était dit, bon, on va le mettre au monde et puis on verra bien ce qu'on en fera. Mais dans notre tête, c'était quand même pas une épreuve, c'était pas un objectif sur cette compète. Et puis en allant, peu à peu, on s'est dit qu'il allait fallait faire des choix, et je l'ai laissé faire, et il avait vraiment envie de faire quelque chose sur ce 100 pas.
Michel Chrétien, l'entraîneur de Maxime Grousset, avec nous sur RMC. Michel, est-ce que vous avez vu... Il a de l'expérience, il a fait les Jeux, il a déjà fait des mondiaux, Maxime, mais la façon dont il a construit ce titre, ce 100 mètres papillon, même les séries où il a pu partir par une ligne d'eau au milieu, il a fait des bons temps, vous avez vu quelque chose de très fort dans la façon dont il a construit. Il y a une forme aussi de maturité pour Maxime qui a 24 ans, mais qui reste assez jeune en quelque part sur la découverte de tous ces grands rendez-vous mondiaux.
Oui, mais en fait, justement, c'est quand même l'expérience des années précédentes qui l'ont amené à bien maîtriser ce 100 pape. Et je crois que même, 24 ans, mais je crois que Maxime, il prend de l'expérience à chaque événement international. Et la façon dont il a abordé cette course, eh bien, il l'a fait avec maîtrise, et justement grâce à tout ce qu'il a fait auparavant et ces moments qu'il a vécu dans soit les Jeux, soit les championnats du monde.
Tu l'as croisé rapidement, qu'est-ce que vous avez pu vous dire?
Je crois qu'on s'est rien dit, on s'est sauté dans les bras, et puis chacun, on sait comment ces moments sont particuliers et comment on les vit. Donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de grands discours.
Et Michel, le grand public français a notamment découvert l'éclatant talent de Léon Marchand. Et l'autre grand bonhomme de ces championnats du monde, c'est Maxime. Est-ce que tu peux nous parler de lui, de quel type de garçon, de nageur et d'homme c'est, et à entraîner aussi?
En fait, c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais il a une ambition depuis qu'il est tout petit. À 9-10 ans, quand il a commencé vraiment à nager sérieusement, il l'a fait avec ce rêve d'être champion olympique. Et donc, il il a fait son cheminement. C'était vraiment un jeune sprinter sur des distances très courtes parce qu'il nageait pas beaucoup. Et puis je pense qu'il a passé par la tête. Il s'est dit je vais aller à Amiens. Donc quitter Nouméa pour venir s'entraîner à Amiens. C'était très fort. Ça voulait dire que le bonhomme quand même il était très ambitieux. Et puis ça a matché tout de suite entre nous, donc avec une relation qui est assez proche, je vais pas dire paternaliste, mais enfin Maxime aime bien qu'on lui témoigne de l'attention et je crois qu'il l'a trouvé avec moi et l'expérience que j'avais eue auparavant avec Mélanie et Jérémy.
Oui, donc à l'INSEP, hein, on rappelle, dans le Bois de Vincennes, il y a un groupe aussi. Il y a un relais demain avec son pote, Johan Ndeuibroir, sur le relais 4 nages. On a quand même dans ce relais des champions du monde, deux champions du monde possiblement. Au final, ça peut se terminer en apothéose pour la natation française. C'est quoi l'idée?
Alors, je sais que ce relais, il est d'ambition. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec ces deux nageurs, je pense que les autres vont se transcender, en tout cas vont se mettre à la hauteur et parce qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir de nager avec eux et ça fait une force et je pense que on peut avoir quelques surprises. Oui.
Alors je crois que Cathy Ledecky a dû nager donc gagner un titre mondial mais
et un record du monde je crois.
Maxime a décroché son titre. La France avait plus de médailles d'or que les États-Unis dans ces championnats du monde.
Ah oui, bon, c'est une surprise. Bon ben voilà. Comme quoi hein. La France n'est pas une petite nation quand elle accompagne du mieux possible ses talents. Et voilà, je pense qu'il faut que l'histoire continue et avec d'autres encore.
Je voulais t'amener sur les Jeux. En fait, voilà, ma question c'est aux Jeux Olympiques, c'est quand même plein de promesses aussi pour Maxime, notamment ce qui s'est passé là. Mais il va le rajouter à son programme, évidemment.
Bah, je pense que là, on va pas pouvoir faire autrement. Ouais. Donc oui, on va s'y préparer, et on va servir de ça pour encore progresser sur le 100 mètres nage libre, qui reste quand même aussi une épreuve sur laquelle il peut encore faire de très bonnes choses. Donc oui, on va pas se mettre la pression, on va reprendre l'entraînement, on va prendre des vacances, et puis ensuite, il est sûr que quand on va reprendre l'entraînement, on le fera différemment, en tout cas avec beaucoup de confiance en nous.
Merci beaucoup Julien Richard et Michel Chrétien, l'entraîneur de Maxime Grousset depuis Fukuoka au Japon, le titre de champion du monde pour Maxime Grousset, le néo-calédonien, donc sur 100 mètres papillon, que d'émotion dans ces mondiaux de natation à Fukuoka, et puis que d'émotion aussi depuis midi avec cette victoire de l'équipe de France de foot 2-1 contre le Brésil avec des buts de Jenny Le Sommer et de Wendy Renard, les Lyonnaises, les Bleus parfaitement lancées. Donc après certes un triste 0-0 contre la Jamaïque et là cette première victoire contre le Brésil, elles prennent les commandes, le rendez-vous midi. On sera là avec Élise Bussaglia, Fleur Jaffrelot et Anthony Resch au commentaire, le dispositif pour chaque match de l'équipe de France midi. Mercredi, RMC 14h56, c'est l'intégral sport qui arrive avec Flora Moussi. On avait vécu plein de choses, j'espère aussi que vous allez avoir de beaux moments.
Mais évidemment, il y en a toujours en même temps dans l'intégral sport sur RMC. On va revenir évidemment sur la médaille d'or de Maxime Grousset, sur la victoire des Bleus, t'en as parlé Arnaud. On sera à Albi pour les championnats de France d'athlétisme, à Milan pour les mondiaux d'escrime, parce que les équipes de France de fleuret chez les dames et épée chez les hommes sont en finale. Et puis sans oublier bien sûr la course sprint en Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps. A tout de suite sur RMC.